France Info.
20h03 sur France Info, les informés avec Jean-Mathieu Perrin.
France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Alors je vous avoue qu'au départ, on a failli le faire hein, quand on a vu le titre de cet article, un Écossais jugé pour avoir diffusé la vidéo de son chien imitant le salut nazi. On s'est dit, il y a forcément quelque chose à dire sur notre époque. Et puis en fait, nous sommes revenus à des considérations beaucoup plus classiques parce qu'on n'est pas encore prêt à ça, en fait, faut tout vous dire. Et eux, ils suivent le chemin de l'actualité en sifflotant. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Jeannick Halimi, bonsoir, du Parisien aujourd'hui en France. Également, le député de la Vienne, La République En Marche, Sacha Houillé, bonsoir.
Bonsoir.
Valérie Thoragnon, bonsoir, de bonsoir. La revue Des Deux Mondes. Et le comédien et humoriste Christophe Alévèque, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, votre nouveau spectacle, Christophe, eh ben, c'est à partir de dimanche au Théâtre du Rond-Point à Paris. Il s'intitule Christophe Alévèque revient quand même. Pourquoi quand même?
Quand même, oh, c'est une idée de Jean-Michel Ribes.
Hein. Ah,
voilà, non, c'est une revue de presse de l'actualité, c'est une improvisation. Voilà, et j'ai le temps. C'est bien parce que ça dure une heure et demie. Voilà, je vais l'écrire demain.
Très bien.
Et puis, ah bah oui, parce que c'est. Je fais comme
c'est
le gouvernement.
Bien sûr.
Et je fais comme le gouvernement, j'improvise.
Très bien.
Bon, ça, c'est pas tout à fait exact.
Ah, bon, alors justement, on en parlera.
Et ce soir. Pour vous, c'était une boutade.
Et ce soir, on parlera JO et maintenant, les idées du professeur Blanquer. Laurent Wauquiez explore personnellement le dossier de l'assistance. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Et si finalement la contestation contre la réforme du Code du travail aidait à lutter contre le réchauffement climatique? Alors c'est un peu une convergence hein, des luttes inattendues, mais après l'appel des syndicats aux transporteurs routiers de bloquer les dépôts de carburant à partir du 25 septembre, on se dit qu'il y aura moins d'essence, donc moins de particules fines, donc moins de pollution, et l'accord de Paris sera respecté. Voilà, sûr qu'Emmanuel Macron sera aussi sur le piquet de grève. Bon, tout ça est un peu tiré par les cheveux, mais la protestation ne faiblit pas. Manifestation syndicale le 21, puis France Insoumise le 23, puis donc les chauffeurs routiers, avant sûrement d'autres mobilisations, puisque l'agenda social du gouvernement est chargé, mais concernant la réforme du Code du travail, la ministre l'assure, rien ne sera changé. Muriel Pénicaud.
La réforme pour le renforcement du dialogue social, la loi, les ordonnances, c'est le fruit d'une annonce de campagne d'Emmanuel Macron, qui est devenu président de la République, avec ce mandat, l'Assemblée nationale aussi, et donc le gouvernement mettant en œuvre ce que les Français nous ont demandé de faire. Donc on ne va pas reculer.
Voilà, Muriel Pénicaud hier donc sur BFM. Alors Valérie Thoragnon, c'est vrai que quand les transporteurs routiers rentrent dans le mouvement, souvent quand même, ils obtiennent gain de cause. Par exemple, lors de l'Euro 2016, ils avaient menacé de bloquer et ils ont obtenu gain de cause sur ce qui les concernait dans la loi El Khomri. Est-ce que là, ça peut être une menace sévère et importante pour le gouvernement?
C'est toujours embêtant quand les routiers s'y mettent parce que ça bloque la circulation, ça peut bloquer les dépôts de carburant. Voilà, maintenant, on va voir aussi comment la mobilisation va se poursuivre parce que la CGT a fait un résultat convenable de mobilisation. On ne peut pas non plus dire que c'était un succès énorme. Donc, il faut attendre de voir les journées qui vont succéder. Je ne vois pas comment... En 2016, la situation n'était quand même pas tout à fait la même. La légitimité du gouvernement par rapport à la réforme, à la loi El Khomri, à tout ça, je pense qu'elle était moins assise qu'aujourd'hui la légitimité qu'a Emmanuel Macron, en tout cas qu'il a encore par rapport à... C'est exactement la façon dont Muriel Pénicaud l'a expliqué, c'est-à-dire j'étais élu pour ça, je le fais, et je pense, je les vois mal reculer. Alors, ils vont peut-être reculer habilement, faire des compromis sur certains, reprendre la discussion sur certains points, mais globalement, ils n'ont pas fait tout ça, et les ordonnances ne sont pas passées pour que tout d'un coup, à cause des routiers, on fasse machine arrière. Mais moi, il faut être très très prudent, et on ne sait pas ce qui va se passer, et
bien
comment
sûr.
Va tourner la mobilisation.
Sacha Houillé, comment vous avez vu justement, cette protestation qui s'est organisée aussi cette semaine, savoir qu'il y en a une le 21, le 23, c'est davantage politique, et c'est maintenant ces routiers qui menacent, les syndicats de routiers qui appellent.
D'abord, il y a un Front syndical des Unis, ça on l'a déjà constaté, mais qui est le fruit du travail du gouvernement sur la concertation qui a été organisée, dont on a dit qu'il y avait eu 100 réunions qui permettaient de pouvoir consulter, de pouvoir amender avant même que les ordonnances ne paraissent. Et puis ensuite, le travail des ordonnances qui a finalement été la traduction de l'habilitation, la possibilité de mieux négocier dans les branches, la possibilité de la fusion des organismes de représentation pour qu'il y ait un meilleur dialogue social, la barémisation des indemnités, sachant que les indemnités légales, elles augmentent. Et pour les routiers spécifiquement, moi, je constate quand même qu'il y a des avancées. Parce qu'il y a ce qui figure au titre de tous les travailleurs dans les ordonnances. Mais il y a tout ce qui est le combat qui est mené par Emmanuel Macron au niveau européen sur les travailleurs détachés. Pour que les travailleurs détachés soient soumis à des cotisations qui soient égales, travail égal, cotisation égale. Et ça, ça change un peu les conditions d'exploitation des routiers. Ce serait bien
mais
d'en
eux,
tenir
ils
compte.
Parlent de la loi de code de travail.
Non, mais j'entends, mais sur les ordonnances, on a dit qu'elles ne bougeraient pas et qu'elles avaient vocation à être ratifiées telles qu'elles avaient été adoptées. Mais sur les routiers, encore une fois, il y a d'autres avancées que le gouvernement a conduites pour eux.
Christophe Alévèque, comment vous jugez justement aussi cette mobilisation sociale alors, on l'a dit, ce n'était pas quelque chose d'énorme, mais est-ce que vous imaginez quelque chose comme, finalement, contre la loi El Khomri, ça veut dire sur la longueur, montant, comme ça
Malheureusement, je ne pense pas. Et ça ne vient pas du tout du gouvernement qui a vu les syndicats et qui a parlé, etc. Parce que je pense qu'ils font comme les autres syndicats. On écoute tout le monde et à la fin, on fait comme on veut. C'est que la gauche est complètement désunie depuis des années et des années et qu'ils sont incapables de s'entendre. Voilà. Je lisais aujourd'hui dans le journal qu'il y a à peu près 400-450 micro-partis en France, dont je ne sais combien de centaines à gauche. C'est-à-dire, en gros, tout le monde veut faire son mouvement et son parti. Et tout ce que veulent faire les mouvements et les partis, c'est rassembler. Et c'est ça qui est drôle. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir rassembler. Et là où Macron est malin, parce que c'est un paquet cadeau, finalement, on va découvrir le cadeau à un moment donné. mais là où il est malin, c'est qu'il joue sur la division. C'est très bien.
Yannick Halimi, en effet, alors cette division, et pourtant, on le voit, deux journées encore à venir. Il y en a une le 21 exprès, parce que ce sera le 22, où ça sera présenté au Conseil des ministres. Le 23, celle des Insoumis. Ça veut dire, ensuite, on va parler, parce que l'agenda social est assez chargé. C'est-à-dire que ça peut continuer, d'après vous ?
Ça peut continuer, vous avez raison. La question, c'est plus tellement de juger la journée du 12, c'est de voir ce que va donner cette journée du 12. Alors, on parle beaucoup de désunion par la suite, je veux dire, la prochaine journée de mobilisation syndicale, la journée... De samedi de Jean-Luc Mélenchon. On parle beaucoup de division, vous avez raison, et comme il a fait un petit peu imploser les partis politiques, Emmanuel Macron tente de diviser, pas de faire imploser les syndicats. Mais la messe n'est pas dite. On voit quand même que Jean-Luc Mélenchon est beaucoup moins rude avec la CGT qu'il l'a été au début, donc il peut avoir une fusion et des forces politiques et des forces syndicales, et puis il peut avoir beaucoup d'autres foyers de tension, voire des explosion, on en parlera tout à l'heure.
Exactement, mais vous devriez faire la radio, d'ailleurs, comme vous en faites,
vous
c'est formidable.
Ah bon,
bien
d'accord.
Sûr. Allez, l'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
7000 militaires resteront mobilisés pour l'opération Sentinelle, mais plus mobiles et plus réactifs. Cette surveillance va changer de mode d'action pour mieux s'adapter à l'évolution de la menace terroriste. L'armée va prendre le contrôle tactique de ce dispositif mis en place après les attentats de 2015 en France. La conclusion d'un conseil de défense cet après-midi à l'Élysée. À Saint-Martin, après le passage d'Irma, le ministre de l'Éducation promet quelques heures de cours par jour. Et dès la semaine prochaine, les classes se tiendront dans un premier temps dans des structures gonflables de l'armée avec une priorité accordée aux classes d'examen, c'est-à-dire terminale et brevet des collèges. Depuis 50 jours, Lou Bureau attend sa libération dans une prison en Turquie. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, doit rencontrer ces deux prochains jours les autorités turques pour demander sa libération. Le journaliste a été incarcéré fin juillet après un reportage aux côtés des Kurdes. Emmanuel Macron retire sa plainte contre un paparazzi en geste d'apaisement. Le chef de l'État dénonçait le fait qu'il soit entré dans la résidence privée où il se trouvait en vacances cet été à Marseille. Plainte retirée il y a quelques jours avec ce commentaire de l'Élysée. C'est du passé. Et puis, c'est du futur. Dès demain, les Parisiens pourront célébrer l'obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce sera devant le parvis de l'Hôtel de Ville quand la maire Anne Hidalgo et la délégation française seront rentrées de Lima. Emmanuel Macron les recevra à l'Élysée aux côtés des deux anciens président de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle donc de cette France qui commencerait ou non à gronder. Sacha Houillet, je vous ai vu ne pas être d'accord avec ce que disait Jeannick Halimi sur Emmanuel Macron qui veut la désunion, qui explose finalement.
Je peux intervenir avant. Alors oui, comme Macron vient de retirer sa plainte qu'il avait déposée, je pense qu'il peut aussi changer d'avis souvent.
Oui, d'accord.
Par exemple, sur la loi travail.
Très bien. Donc c'est
tout ce que j'avais à dire.
Pour ce qui est très précis dans le changement d'avis, Emmanuel Macron, il avait l'avis qu'il a sur les ordonnances en juin 2015, lorsqu'il a fait adopter la loi qui porte son nom. En mars 2016, lorsqu'il y a eu l'examen de la loi El Khomri, en campagne présidentielle au printemps, et il l'a toujours. Donc il y a une certaine cohérence, d'autant plus que nous avons été élus sur ce programme. Donc après, le mettre en œuvre, c'est aussi la moindre des choses. Sur la question du front syndical, c'est pas nous qui l'avons fissuré. C'est que certains syndicats ont dit par eux-mêmes que dans ce qu'ils trouvaient dans les ordonnances, et principalement sur le fait que l'accord de branche prime sur l'accord d'entreprise.
C'était. Ce qui n'est pas le cas partout, quand même, monsieur.
Non,
c'est beaucoup plus complexe que ce que vous voulez bien dire. C'est pas le cas
sur les primes, notamment, qui peuvent être négociées, pour le coup, dans les entreprises. Mais pour ce qui concerne FO, notamment, eh bien, ils ont trouvé dans les ordonnances des points de satisfaction, pas tous. Ils l'ont dit, qui aujourd'hui font qu'ils ne s'engagent pas dans la manifestation.
Mais vous avez réussi quand même à fâcher la CFDT qui était d'accord avec la loi El Khomri, et vous la fâchez. Parce qu'on a dit
dès le départ qu'on irait plus loin sur certains dispositifs, notamment de fusion des institutions représentatives, ou encore sur la façon dont on encadre les licenciements pour que chacun y trouve son compte et y trouve une visibilité. Et là-dessus, il y avait des désaccords qu'on a assumés.
Jeannick Halimi.
Oui, moi je pense qu'il les fait pas exploser les syndicats, contrairement à ce qui peut se passer avec le PS ou les Républicains. Il les divise, mais il les divise dans l'espace aujourd'hui, mais il risque de les diviser aussi dans le temps, parce que on l'a déjà dit, il y a différentes réformes qui sont en perspective, avec la réforme d'indemnisation chômage, la réforme de la formation professionnelle, la réforme des retraites. On sait que ce sont des places fortes de certains syndicats, d'indemnisation chômage notamment, de
force ouvrière. Parce qu'ils sont financés aussi par les
exactement. Sont financés par les branches, mais c'est aussi des postes très importants pour les apparatchiks des syndicats. Et on voit aussi que Macron, même s'il s'en défend, Emmanuel Macron, fait du donnant-donnant. Je vous lâche sur les accords de branche, on va dire, mais ou je vais vous lâcher sur la nationalisation, l'étatisation de la réforme d'indemnisation chômage, mais je ne recule pas sur les accords de branche. Enfin, vous voyez, donc il négocie aussi.
Mais justement,
c'est du dialogue social.
Justement, à propos de donnant-donnant, il y a une chose qu'on a appris, parce qu'il va y avoir, donc vous l'avez dit, il y a pas mal de choses qui vont s'enchaîner socialement parlant, parce qu'il y a eu le code du travail avant la réforme des retraites. Il y aura donc autre chose qui aujourd'hui questionne, c'est le plan logement, puisqu'il devait être présenté cette semaine au Conseil des ministres, il a été reporté à la semaine prochaine. Et selon le journal L'Opinion, ça n'a pas été démenti par Édouard Philippe, le gouvernement pourrait baisser les fameuses APL des locataires des HLM de 60 euros. Et oui, et ainsi une baisse de loyer du même montant. On est beaucoup plus loin que les 5 euros de cet été. Valérie Toragnan, là, c'est vrai que le chiffre change totalement de 5 à 60 euros. C'est quand même assez impressionnant. On a l'impression toujours que là, ça tape aussi auprès des plus fragiles.
Ouais, alors 5 euros, c'était les étudiants, donc c'était tellement symbolique d'ailleurs qu'on se demande un peu parfois pourquoi on a créé cette mesure qui évidemment a fait polémique. 60 euros, c'est plus important. Maintenant, je connais pas exactement le détail. Il y a aussi si ça doit être compensé par les loyers, par les.
C'est-à-dire qu'aucun euro ne sera pris au locataire.
Oui, mais aujourd'hui, les bailleurs HLM, par exemple, eux, ils disent maintenant c'est répercuté sur nous, donc on ne peut plus investir aussi. Vous voyez, Sacha Houillet.
Mais comment tient un marcheur,
oui.
Enfin un piétineur en ce moment.
On avance quand même très vite sur
c'était
le programme.
Dans le, c'est pas parce qu'on avance très vite qu'on a raison. Est-ce que c'était dans le programme, ça, la baisse des APL?
Alors justement, si on voit les choses par le petit bout de la lorgnette, si on voit seulement les ordonnances sans voir l'assurance chômage pour tous, effectivement on peut se tromper. Si on voit les APL sans voir le programme logement, aussi on peut se tromper. Qu'est-ce qu'on va faire sur le plan logement? La minorité s'exprime beaucoup dans le cadre de l'hémicycle, elle n'écoute pas souvent la majorité.
Alors allez-y, donc sur ce plan logement,
on va construire plus de logements. Deux, on va permettre aux bailleurs sociaux d'emprunter à moins cher auprès de la Caisse des dépôts. Par contre, on va leur demander un effort sur le loyer qu'ils perçoivent pour que eux baissent les loyers et que, en conséquence, on n'ait pas à distribuer 18 milliards d'euros qui se retrouvent dans la poche des propriétaires. Parce que si on raconte aujourd'hui que c'est les locataires qui reçoivent les milliards d'euros de l'appel, c'est faux. C'est un transfert que l'État donne aux propriétaires. Alors, et ça ne marche pas pour loger les gens. Ça ne marche pas.
Voilà. Non, juste ce que je voulais dire, parce que vous disiez tout à l'heure, c'était dans son programme, on va le faire. Bon, ça ne l'était pas. Si. Mais il se trouve, la baisse des APL, ça ne l'était pas.
Dans 5 euros, ça n'y était pas. Ça a été annoncé comme une mesure d'urgence.
Voilà. Mais pourquoi comme Chirac, comme Sarkozy, comme Hollande, et donc là, il n'y a pas de nouveauté, pas de modernité, pas de jeunesse, le président de la République, nouvellement élu, arrive, fait un audit des comptes publics, et tout d'un coup s'aperçoit. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent. Alors qu'il était au gouvernement. Des couleuvres comme ça.
Il n'était pas ministre des Finances, monsieur l'évêque.
Non, bah il n'était pas au courant. Mais non, mais il n'était pas au courant qu'il manquait 4 milliards et demi.
Vous permettez de répondre sur ce qu'on a fait cet été. C'est que soit cet été.
Non, expliquez-nous. Alors, s'il n'était pas au courant, c'est d'incompétence. Et s'il ne l'a pas dit, c'est que c'est un menteur.
Alors, juste, on va écouter Sacha Houlié.
C'est laquelle des deux solutions?
On va écouter Sacha Houlié.
C'est pas aussi binaire, les choses. Ce serait simple que ce soit si binaire, mais ça ne l'est pas. Mais parce que justement, il y a des
Macron, il n'y a plus de droite.
Si je peux m'exprimer.
Allez-y, Sacha.
On fait un audit de les comptes publics qui montre effectivement qu'il y a un trou dans la caisse. Ok, dont acte.
Et c'est une grande découverte.
Soit on décide de faire un budget rectificatif pour augmenter les impôts et dire on paye tout. Il n'y a pas de problème. On paye tout, on augmente les impôts. Pas de problème. On peut le faire. C'est pas notre cas.
Donc on trouve
les comptes insincères. On dit que le budget 2017. On le fait comme il est prévu. Donc, s'ils n'ont pas mis l'argent dans les appels, eh ben, on est obligé de les baisser parce que c'est le précédent gouvernement qui ne l'a pas fait. D'accord. Et on prépare un vrai budget 2018 qui nous permette de baisser les loyers pour tout le monde parce que c'est
voilà,
ça qu'on fait.
Et qui foutent la paix à Google surtout.
Mais,
si vous voulez parler des GAFA, dans les comptes publics. C'est faux, c'est un mensonge.
Mais il n'était pas celui qui a fait adopter le PLF 2017.
Donc, je précise.
Un peu de précision,
je vais derrière parce que aussi j'essaye de préciser.
Plus la ficelle est grosse, plus le con grimpe à l'arbre. C'était un adage de Sarkozy.
Il était à Bercy quand même en 2016.
Pas aux finances.
Quand même.
Demandez les comptes à M. Sapin, allez-y.
Alors justement, mais M. Sapin, il en veut un petit peu aujourd'hui, Emmanuel Macron, de ça. Alors on va parler de politique, politicienne dans un instant. On va partir à droite sur un candidat. Il y a un peu de mal en ce moment. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Il n'a que 14 ans, ce collégien avoue une vingtaine d'incendies cet été dans les Bouches-du-Rhône et notamment le feu qui avait bloqué 3000 passagers près de Marseille en plein week-end de grand départ. L'adolescent a été interpellé mardi, mis en examen il y a quelques heures pour destruction par incendie. Son explication, il était fasciné par le travail des pompiers. Parce qu'il ne supporte pas la nouvelle formule du Levothyrox, ce médicament pour la thyroïde, une cinquantaine de patients vont porter plainte contre X, entre autres pour non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d'autrui. Ces malades dénoncent des effets indésirables depuis le printemps dernier, la commercialisation du produit. La Guadeloupe confrontée dès cette fin d'après-midi aux fortes pluies, aux orages. Météo France place l'île en vigilance jaune avant l'arrivée des orages et surtout des inondations temporaires. La Guadeloupe où se trouvent actuellement des blessés de l'ouragan Irma soignés à l'hôpital de Pointe-à-Pitre. L'ONU redoute toujours le scénario du pire pour les Rohingyas. Le Parlement européen appelle à son tour, l'armée birmane à la fin des violences. Ces personnes sont désormais près de 390 000 à la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh. Et puis à Paris, la station de métro Hôtel de Ville est depuis ce matin rebaptisée Ville Haute. Une surprise pour les voyageurs des lignes 1 et 11 après l'obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le couloir principal de la station de métro est transformé en piste d'athlétisme. Un clin d'œil à l'olympisme jusqu'à lundi.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors,
écoute, c'est comme ça.
Mais oui, bien sûr, mais oui. Bon. Mais on est olympique maintenant.
L'actualité, ouais. Des fois les gens me disent, mais tes conneries dans la rue de presse, tu les trouves. Où mais là.
Mais oui, voilà. Allez, l'un des mots d'ordre d'Emmanuel Macron, vous le savez, c'est l'évaluation. On teste et puis on voit ce qui se passe. Eh bien, il y en a un qui l'a pris au mot et depuis assez longtemps, en fait, c'est Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est une vraie évaluation sur pattes. Par exemple, c'est sorti sur l'immigration. Bon, c'est un test, pour voir si les électeurs du Front National pourraient se sentir tentés. Sur la PMA, c'est un un test pour voir si Sens commun est toujours là. Droit à la retraite du Conseil d'État alors que Wauquiez n'y a travaillé que 2 mois. Eh bien, c'est un test pour voir à quel point l'assistanat ruine la France. Bon, c'est un long test de 13 ans. Bon, il y a beaucoup de choses à vérifier aussi. Révélé par le magazine Lyon Capital, Laurent Wauquiez, en détachement du Conseil d'État suite à son élection en tant que député en 2004, continue donc à bénéficier des droits à la retraite depuis 13 ans. Une pratique qui n'a rien d'illégal, mais moralement, bon, vous connaissez la suite. Au fait, qu'est-ce que disait à propos de l'assistanat Laurent Wauquiez? C'était le 1er septembre dernier.
D'abord, le travail. Une de mes obsessions, c'est que le travail en France doit payer plus que l'assistanat. Le problème majeur de la France, c'est que ceux qui travaillent, à la fin du mois, ne gagnent pas tellement plus que s'ils restent chez eux.
Voilà, c'était Laurent Wauquiez, donc le 1er septembre, Jeannine Calimi.
Oui, cette affaire, il est pris à son propre piège, évidemment, puisque quelle est votre question en fait?
Justement, j'allais vous la poser, mais vous démarrez tout de suite, c'est pour ça. Bon. Non, mais juste, Laurent Wauquiez dit, ça tombe pile au moment comme par hasard de ma candidature.
Oui,
oh là là,
bon, ça,
alors,
on va peut-être éluder ce genre de choses, on va peut-être l'éviter. Oui, d'abord, pourquoi pas cette bonne guerre. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? C'est surtout la question qui se pose. Oui, c'est vrai, il ne dément pas d'avoir.
Il faut juste dire, c'est légal. C'est légal.
Ah bah totalement.
C'est légal, mais on a encore une nouvelle fois sur le côté moral, légal.
C'est
moral.
Légal. Alors avec eux, c'est totalement légal. Il y a peut-être quand même pour donner quelques arguments, si je puis dire, à Laurent Wauquiez. Il n'a pas travaillé. Enfin bref, la retraite à laquelle il a droit couvre aussi les années d'études qu'il a faites à l'ENA et à Normal Sup, où ils sont payés en tant que futur fonctionnaire, donc il a cotisé là-dessus. Non, la chose entre guillemets, enfin pas entre guillemets quand même, qui peut provoquer le scandale, même si encore une fois c'est légal, c'est que c'est une situation de détachement qui est beaucoup plus protectrice que celle de disponibilité, dans la mesure où détachement, la carrière du fonctionnaire qui travaille ailleurs que dans la fonction publique continue à fonctionner, les droits mécaniquement sont calculés, alors que disponibilité, il pouvait partir où il voulait, dans le privé, mais les droits, notamment à la retraite, ne fonctionnaient pas.
Je précise juste un petit point de la loi, justement, c'est seuls les parlementaires, les parlementaires et ministres doivent se mettre en disponibilité et non en détachement. Laurent Wauquiez n'est pas plus député.
L'autre élément quand même un peu stupéfiant, il ne s'est pas présenté. Représenté comme député, une des raisons, ça n'est certainement pas la seule, mais ça lui a permis d'échapper à la loi Cahuzac qui interdit un ancien haut fonctionnaire d'être en détachement et non plus en disponibilité.
Valérie Thorignon, ça arrive souvent, c'est parce qu'on se souvient de François Hollande qui avait été dans le même cas, qui avait dû démissionner. Nathalie Kosciusko-Morizet, alors dans d'autres administrations, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron ont également démissionné de la fonction publique.
Mais justement, pour se mettre en phase avec ce qu'on attend aujourd'hui de la transparence et de la moralité et de la moralisation de la vie politique, c'est là où c'est pas jouable. C'est-à-dire que maintenant, quand on commence une phrase en disant « c'est légal, mais tout le monde », c'est les clignotants rouges qui s'allument partout. C'est-à-dire on sait déjà, d'entrée de jeu, que ça n'a pas été joué comme il faut que ce soit joué maintenant. C'est ça qui est incroyable. Donc il est piégé. Cette loi Cahuzac, d'ailleurs, on se demande pourquoi les parlementaires, les ministres et pas les présidents de région, les présidents de département, etc. Donc ça, je pense qu'il va y avoir un rajustement vite fait de la loi, parce que de toute façon, c'est fini, on ne peut plus tolérer ça, on est piégé, et quand on est à ce niveau-là en politique, on sait que c'est, désormais, il faut faire de la politique en ayant des avocats, des conseils qui vérifient tout, qui scrutent tout, qui vous disent, au cas où vous auriez oublié, parce que parfois, ils arguent de leur bonne foi qu'ils ne se sont pas rendus compte. Non, c'est fini, c'est aujourd'hui, on ne peut pas être ce niveau-là.
Sacha Houillet, est-ce que vous seriez pour, en tant que parlementaire, d'étendre justement ça, par exemple, président de région, aujourd'hui président de département.
Oui, je pense que c'est tout naturel, mais tout ça m'inspire quand même 3 commentaires. D'abord, je comprends un peu plus la position de la droite dans l'hémicycle, qui a préféré chahuter les débats plutôt que se bosiner sur le fond lors de la confiance. Finalement, il y avait encore de la poussière sous le tapis. Et donc, on a des compléments qu'on pourra trouver avec les situations de fait. Mais deuxième chose, c'est que dans la réforme de l'Assemblée nationale, sur le statut des parlementaires, on a été encore plus loin, nous. On a supprimé tout ce qui était les avantages liés à la retraite ou le système de chômage des parlementaires. Et moi, j'avais dénoncé dans l'hémicycle les fameux privilèges. Il en reste encore pour les anciens parlementaires. Et enfin, troisième chose, lorsque Emmanuel Macron avait fait campagne présidentielle, il avait parlé d'une réforme du statut des fonctionnaires. Et il avait parlé du statut des hauts fonctionnaires, très précisément, pas de tous, des hauts fonctionnaires. Là, c'est le cas de précisé de M. Wauquiez. Oui. Et donc, finalement, il y a une réforme à conduire sur le statut de la haute fonction publique, où il y a encore des avantages à corriger.
Et des grands corps d'État.
On se souvient de cette campagne présidentielle qui avait été marquée par c'est moral, c'est légal, mais pas moral. Donc ça, finalement, ça recommence. On se rend compte qu'il y a des situations encore aujourd'hui, qu'on ne peut plus supporter aujourd'hui alors qu'on les supportait avant peut-être?
Non, je pense que c'est simplement, puis quand, je pense que les nouveaux députés marcheurs sont pas à l'abri non plus. Il va y avoir des conflits d'intérêts qu'on va,
découvrir. Voilà, mais
oui. C'est un début, continuons le combat.
Très bien, donc
Voilà, mais concernant Wauquiez, moi je ne suis pas objectif du tout. Si vous voulez, je pense que tout ce que dit cet homme et fait cet homme est inepte.
Très
donc,
bien.
Mais je trouve qu'il y a une bonne chose dans ce qu'il a fait, c'est que s'il pense à ses points retraite, c'est qu'il se dit qu'il ne va pas aller loin. Et ça, c'est un bon signe.
Très bien. Allez, la suite des informés de France Info. On parlera éducation et bien sûr un peu Jeux Olympiques. Hein, c'est normal, on n'arrête pas d'en parler. Les informés de France Info, on revient dans quelques minutes.
Et si travailler avec l'international devenait un jeu d'enfant?
Tu sais qu'avec mon forfait Orange Pro, j'appelle en illimité vert et depuis toute l'Europe.
Ouais, et ben moi, avec mon forfait Orange Pro, je peux contacter mes fournisseurs au Brésil et en Russie.
Ah bah moi, grâce à tous mes gigas, je peux travailler sereinement avec mes clients aux States, hein.
Ah ouais, tu parles anglais toi maintenant?
Avec Orange, travaillez plus facilement avec l'international grâce à la gamme Performance Pro. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
Nous sommes avec Michel, qui tente en ce moment même de résister à l'offre crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Il souffre. Va-t-il résister encore longtemps?
Il se pourrait bien que j'en profite.
Et ben voilà.
Difficile de résister. Du 15 au 23 septembre, le crédit à 0% est disponible sur toute la gamme Volkswagen. Pour 10 000 euros empruntés, 10% d'apport, 36 mensualités de 277,78 €, montant total du 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur volkswagen.fr. Portes ouvertes ce week-end.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Un ciel d'averse demain, le matin, ce sera nuageux. On trouvera déjà des averses vers la Manche avec un coup de tonnerre. Même chose vers la côte aquitaine. Quelques averses aussi entre le massif central et le nord-est. De la pluie pour le Roussillon. De belles éclaircies en revanche entre le midi toulousain et le nord des Alpes. Il fera 11 à 18 degrés en Méditerranée le matin, pas plus de 5 à 10 ailleurs. L'après-midi, un risque d'averses orageuses sur la plupart des régions. Elles seront plus fréquentes vers la Bretagne, la Normandie, le Pays Basque. Ce sera mieux de Midi-Pyrénées vers la vallée du Rhône, le Jura, davantage de soleil. On aura seulement 14 degrés à Dinard, 16 à Paris, 17 degrés à Bourges, La Rochelle, 19 à Lyon et Montauban, 21 à Montpellier et encore 26 degrés à Bastia.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Arrivé, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Le deuxième procès de Fabienne Cabou, elle est jugée pour avoir abandonné son bébé sur une plage du Pas-de-Calais à Berck en 2013. La marée était en train de remonter, l'enfant s'est noyé. L'avocate générale a requis aujourd'hui 18 ans de prison. La condamnation en première instance était de 20 ans. Franck Berton, l'un des avocats de l'accusé.
Moi, j'ai dit au juré que si ce procès avait un sens, il fallait baisser la peine prononcée en première instance. Pourquoi? Parce que Fabienne Cabou n'est pas toute seule dans sa tête. Elle est avec quelqu'un d'autre. C'est pas la défense qui le dit, c'est les psychologues et les psychiatres qui concluent une altération du discernement dans une large mesure, une très large mesure. Donc Fabienne Cabou, il faut pas oublier qu'elle a fait appel parce qu'elle veut savoir qui a tué sa fille. Bien évidemment, c'est elle, mais il faut d'abord qu'elle l'admette et qu'ensuite on puisse arriver à lui montrer le chemin et ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé, et que elle était dans une telle pathologie, dans une telle psychose que ça l'a conduit à ce geste criminel. Il faut qu'elle comprenne ça, et pour comprendre ça, il faut qu'il y ait une différence avec ce qui s'est passé à Saint-Omer. Madame Cabou est une femme malade. Il n'y a que ça qui peut expliquer son geste.
Franck Berton, l'avocat de Fabienne Cabou, le verdict doit être rendu demain. Un tout nouveau haut-commissariat à la réforme des retraites créé par le gouvernement, et le poste est occupé par Jean-Paul Delevoye, ancien président du Conseil économique, social et environnemental. Il devra présenter, avec la ministre de la Santé, un projet de loi de réforme, a priori au premier semestre de l'an prochain. Les élèves de Saint-Martin et Saint-Barthélemy devraient pouvoir être à nouveau accueillis par leurs enseignants dès la semaine prochaine. Annonce du ministère de l'Éducation nationale, priorité sera donnée aux collégiens de 3e et aux lycéens de terminale pour éviter de trop gros retards dans le programme avant le brevet et le baccalauréat. Les établissements scolaires sont en train d'être sécurisés sur les deux îles. Certaines classes seront donc assurées dans des structures gonflables de l'armée. Le ministre des Affaires étrangères est en Turquie. Ce jeudi, Jean-Yves Le Drian dit avoir parlé avec les autorités turques du cas de Louburo. Ce journaliste français emprisonné là-bas depuis 50 jours. Le ministre assure avoir demandé un droit de visite pour la famille et une procédure accélérée pour que le jeune reporter puisse rentrer en France. Il est accusé par Ankara d'appartenir à un groupe terroriste. Il a été photographié avec des rebelles kurdes. Deux attentats suicides dans le sud irakien ce jeudi. Ils ont fait au moins 74 morts et 93 blessés. Bilan encore provisoire. C'était près de la ville de Nasiriyah, dans un restaurant et au niveau d'un barrage de police, attaque revendiquée par Daesh. Le sport, trois clubs français engagés en Ligue Europa ce soir. C'est la première journée des phases de groupe de cette compétition de foot. En ce moment, Lyon joue la deuxième mi-temps sur le terrain de l'Apollon Limassol. C'est une équipe chypriote. 1-0 pour Lyon. Les informés de France Info vous manquaient déjà. Eh bien, ils sont de retour puisqu'il est 20h33 et c'est à vous, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils ont jeté leur filet dans l'océan de l'actualité, ils en ont ramené le meilleur, on se fait poète. Hein. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Yannick Halimi du Parisien aujourd'hui en France, également le député de la Vienne, La République En Marche, Sacha Houillet, Valérie Toragnan de la Revue des Deux Mondes et le comédien et humoriste Christophe Alévèque. Juste avant de passer à notre prochain débat, il y a une phrase hein, qui a été beaucoup commentée dans le monde politique et ailleurs aujourd'hui, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Dans une interview au journal La Provence, le leader de la France insoumise a donné sa vision du Parti socialiste. Je cite, le Parti socialiste est le seul zoo de France où les animaux se gardent entre eux. Valérie Toragnan, c'est assez violent, c'est plutôt bien tourné comme phrase, c'est assez amusant, ah, mais c'est violent, quand même très violent.
C'est bien tourné, c'est assez juste, c'est drôle, il a mis les rires de son côté et souvent, faut avouer ce qui est avec Jean-Luc Mélenchon, il a le sens de la formule. Hein, donc, il y a quelque chose qui est assez juste dans cette appréciation. Après, est-ce que vraiment il n'y a pas du tout de gardien? C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi dans cette interview, c'est la façon dont il parle des frondeurs. C'est, il dit, en fait, c'est les frondeurs représentent tout ce que les Français détestent. Il ne faut pas oublier qu'aux élections législatives, ils ont tous perdu sauf un. Ça a été vraiment... ça s'est retourné violemment contre eux. Et qu'on considère que c'est un peu... à la fois, ils ont mangé dans la soupe au PS, puis en même temps, ils ont dénigré le gouvernement pendant toute la durée du quinquennat. Donc, rejet. Ça, je pense que psychologiquement, par rapport à ce que les Français ont perçu des frondeurs, il a raison. Après, est-ce qu'il n'y a pas quand même un gardien qui va se révéler dans tout ça? Est-ce que ce ne sera pas Stéphane Le Foll? Enfin, on voit bien quand même du côté des frondeurs, c'est un peu foutu, mais que le PS va essayer de... Bon, puis il y a quand même Hollande un peu en...
Voilà, et il assure dans ses interviews également que c'est Benoît Hamon qui lui a fait perdre la présidentielle tout en lui tendant la main. Hein. Voilà, donc c'est Jean-Luc Mélenchon. Christophe Alévèque, vous en pensez quoi, vous, de cette phrase?
Trop bien, moi j'aurais pu la mettre dans le spectacle. Elle est très bien, elle est parfaite, elle est... voilà. Mais si Mélenchon continue comme ça, c'est 25 ans de droite, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, il est en train de... D'abord, il tape sur une ambulance...
De droite, c'est-à-dire y compris Emmanuel Macron, donc les choses soient claires.
Le Emmanuel Macron de la loi travail, oui, il est à droite.
D'accord.
Après, sur l'éducation, on sait.
On va en
mais on ne sait pas.
D'accord, mais continuez alors.
Vous
suivez dans votre critique de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'était ça.
Mais voilà. Mais en tout cas, je pense 25 ans de pas de gauche, en tout cas.
D'accord.
Voilà. Je sais pas si c'est son rôle. Son but, c'était de tuer le PS. Bon, ça, il y est arrivé.
Oui.
Voilà. Maintenant que le PS est mort, je pense qu'il est en train de l'enterrer encore plus.
Plus profondément.
Très honnêtement, je ne vois pas ce qu'il cherche. Je vois très bien ce qu'il cherche, malheureusement. Mais ce qu'il cherche, je pense que c'est un horizon de 25 ans sans la gauche au pouvoir.
Justement, Sacha Houillet. Quand Jean-Luc Mélenchon se dit qu'il est votre premier opposant numéro 1, ils sont 17 seulement à l'Assemblée, et pourtant c'est vrai qu'on ne voit pas d'autres groupes hein, aujourd'hui tenir la dragée en tant qu'opposant. Est-ce que vous-même, à l'Assemblée nationale, vous avez l'impression qu'il n'y a que la France insoumise face à vous, ou il y a d'autres personnes?
Non, je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait que la France insoumise. J'aimerais que Jean-Luc Mélenchon il fasse toujours preuve de la même lucidité. Parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même le personnage politique qui vous fait toujours le même match. Il a quand même oublié qu'entre-temps, il y avait une élection. Mmh. Il refait l'élection en permanence.
Là, vous parlez en effet de l'interview, il revient
voilà,
dessus.
Donc, ce qui est quand même assez désagréable. Et puis par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il se prétend peut-être notre première opposition. Il n'empêche que pour être une opposition, il s'agirait aussi d'être, enfin, il serait aussi intéressant d'être constructif, ce que n'est pas tout à fait son groupe dans l'hémicycle.
Oui, pour vous, il n'y a pas assez de propositions.
Ils font des propositions
réalistes.
Il y a beaucoup d'obstructions. Je vais vous donner un exemple. Sur le texte que nous venons d'adopter sur la sécurité intérieure,
oui.
Il y avait pour chaque article un amendement de suppression, donc de suppression du texte, par la France Insoumise. Voilà.
Donc, voilà
un peu le type d'opposition qu'on.
C'est une opposition frontale, en fait.
C'est une opposition frontale et que revendique Jean-Luc Mélenchon qui
assume le fait qu'on sort d'état d'urgence sans protection. Il n'y a pas de problème. Mais
enfin, il veut détricoter. Il le dit, maille par maille, dès qu'il peut mettre un pied dans la porte d'une politique macroniste, quelle qu'elle soit, il la mettra.
Juste une question, j'avais qu'à émis. En effet, comme le disait Christophe Alévèque, sur le côté aussi, finalement, aujourd'hui, à gauche, en effet, d'enterrer le PS, on voit qu'il n'ira pas à la fête de l'UMA non plus. C'est-à-dire qu'il joue vraiment solo. Jean-Luc Mélenchon.
Il joue solo en tentant quand même de faire exploser.
Tout le monde fait tout exploser.
Bah oui, non mais attendez, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui a fait imploser le Parti socialiste. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui a également fait.
Et les socialistes eux-mêmes.
Oui, oui, absolument. Vous avez raison. Et puis il a complètement vampirisé, évidemment. Enfin, vampirisé. En tout cas, le Parti communiste qui n'est pratiquement plus là. Il essaie aussi de décrocher les électeurs du Front National sur la base ouvriériste. Il n'a pas terminé son terrain de conquête de ce côté-là. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez seul. En tout cas, il veut être, non seulement, je crois que c'est Alain Duhamel qui disait ça, non seulement le premier opposant Emmanuel Macron, mais il veut être aussi et surtout le contre-président.
Il veut surtout être, j'ai l'impression.
Surtout être le contre-président. Donc, et là où le bas blesse, effectivement, et je vous rejoins un peu tous, chacun de son côté, c'est que pour être contre-président, il faut avoir, pour le coup, des propositions constructive et en tout cas réaliste. Et c'est là, en partie, que le bas blesse pour le plafond de verre de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise.
Il y a des propositions, on est d'accord, pas d'accord, réaliste, pas réaliste, la loi travail, moi, telle qu'elle va changer, est-ce que ça va créer des emplois ou pas? Qui serait capable de le dire maintenant?
Mais pourquoi dites-vous qu'alors que c'est 25 ans de droite ou de pas gauche, si c'est Jean-Luc Mélenchon
non,
continue comme
simplement,
ça?
Non, simplement, ce que je veux dire, c'est que s'il n'essaye pas de rassembler, pendant la campagne, il n'a rien fait pour rassembler. Au contraire. Donc, à un moment donné, s'il n'y a pas de rassemblement, il n'y aura pas de gauche, à un moment donné, qui aura le pouvoir.
Ah oui, il faut mettre Christophe Alévèque, lui, ce qu'il explique en même temps.
Il y a plein de gens. Benoît Hamon aurait pu
se rassembler autour de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, oui, non, mais
c'est lui qui est arrivé en tête avant le Parti socialiste.
Tout aurait dû se faire bien avant.
Ah oui.
Voilà. Après, c'était évidemment trop tard. Il y avait des financements, il a tendu la main quand il savait que de toute façon l'autre pouvait pas la prendre.
Je pense qu'il n'a pas abandonné l'espoir malgré la pique qu'il vient d'envoyer à Benoît.
Et j'adore Mélenchon. Hein. Vaut mieux être critique. Ça va, à un moment donné, moi je trouve qu'il déconne en ce moment.
Mais comment rassembler s'il ne met pas de l'eau dans son vin, dans sa ligne politique?
Je ne crois pas du tout.
On va parler éducation dans un instant. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Le dispositif Sentinelle sera redéployé, mais pas réduit. La promesse du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ce soir après le Conseil de défense. 7000 militaires restent mobilisés, mais plus mobiles et plus réactifs. Pour s'adapter à l'évolution de la menace terroriste, l'armée va prendre le contrôle tactique du dispositif en place depuis les attentats de novembre 2015 en France. Changement de prison pour le suspect dans la disparition de Maëlys en Isère. Selon France Bleu Isère, l'homme mis en examen pour enlèvement a reçu des menaces de mort à Vars de la part d'autres détenus. Il est désormais dans une cellule à Saint-Quentin-Falavier, près de Lyon. Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy tentent toujours de panser leurs plaies après le passage de l'ouragan Irma. Le ministre de l'Éducation promet dès lundi quelques heures de cours pour les élèves dans des structures gonflables de l'armée. Le bilan est de 41 morts aux Caraïbes, dont 10 à Cuba. Aux États-Unis, Irma a durement touché la Floride avec au moins 20 morts.
C'est l'attentat le plus sanglant en Irak depuis la reprise de Mossoul aux djihadistes début juillet. Le bilan est passé ce soir à 74 morts, plus de 90 blessés dans la province de Zikar. Un double attentat suicide revendiqué par l'organisation État islamique. Et puis le budget de l'enseignement supérieur augmentera bien de 700 millions d'euros en 2018. Une annonce de la ministre Frédérique Vidal. La FAGE se félicite de cet effort, mais le premier syndicat étudiant rappelle qu'aujourd'hui encore, 3000 bacheliers restent sans formation pour cette rentrée universitaire.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors, vous le savez, les motivations pour devenir ministre sont multiples. Pour Jean-Michel Blanquer, hein, ministre de l'Éducation nationale, ce qu'il a décidé, c'est de préparer la rentrée. Il adore la rentrée. C'est fou. La rentrée. Parce qu'après la suppression de la réforme du collège de Najat Vahoubelkacem, de nouvelles classes dans les zones d'éducation prioritaire, des rythmes scolaires à la carte, de la musique, hein, dans tous les sens. Blanquer continue ses annonces. Il y a un moment, il faudra peut-être arrêter puisque la rentrée, ça y est, elle est faite, là, hein. Aujourd'hui, dans l'Express, le ministre explique vouloir un apprentissage de la division, de la multiplication le plus tôt possible, une approche chronologique et non thématique de l'histoire, une interdiction des portables en classe, ainsi qu'une cellule, laïcité. Alors une cellule laïcité, pourquoi faire? Bon, c'est pas encore très clair tout ça, Jean-Michel Blanquer.
Son principe, si vous voulez, c'est que ce soit à l'échelle académique, c'est-à-dire de chaque rectorat, ou à l'échelle nationale, tout fait posant un problème sous l'angle de la laïcité doit être signalé, et ce signalement doit déboucher à la fois sur un conseil, parce que pour le coup, il y a conseil de nature juridique et pratique à donner dans ces cas-là, et ensuite sur un appui, une aide à l'établissement pour faire respecter les principes. Lorsqu'on est clair et net, la République avance. Et c'est quand on est flou et mou que l'on recule.
Voilà, flou et mou, Jean-Michel Blanquer sur France Info. Valérie Thorragnon, on ne connaît pas encore le champ d'action hein, véritablement de cette cellule, mais est-ce que, depuis le temps qu'on en parle beaucoup de laïcité, est-ce qu'on n'est pas une nouvelle fois dans le symbole, là, avec cette cellule laïcité? Parce qu'on a l'impression que c'est de nouveau très administratif, qu'il n'y a pas, c'est pas du concret, véritablement.
Moi, je sais pas, parce que je suis pas dans le secret de l'organisation de cette cellule, c'est encore un peu flou. Mais je crois, en tout cas, une chose est certaine, c'est que les chefs d'établissement ont exprimé et expriment depuis des années le grand désarroi dans lequel ils sont quand ils doivent affronter des problèmes liés à la question de la laïcité. Et il y a différentes formes de problèmes qu'il peut y avoir dans les établissements. Il y a une loi qui doit être appliquée. Bah déjà, premièrement, il faut faire appliquer cette loi. Et ceux qui se mettent en dehors de la loi, il faut pouvoir appliquer les principes qui sont ceux qui ont été votés. Et je pense que c'est une réponse aux chefs d'établissement, que c'est important. Que moi, je trouve que, d'une manière générale, les chefs d'établissement et les professeurs qui ont affronté des choses drôlement complexes sur ces questions de laïcité, sur ces questions d'élèves parfois qui ne veulent pas suivre tel ou tel enseignement. C'est pas simple du tout de gérer ça quand on est professeur. C'est contradictoire. L'Observatoire de la laïcité existe certes, mais on a bien vu que même l'Observatoire de la laïcité, il faisait polémique, il créait polémique, il n'était pas toujours suivi. Donc, qu'il y ait une instance spécifique qui s'occupe, et peut-être qu'elle sera plus concrète et opérationnelle qu'on l'imagine maintenant. En tout cas, moi, j'espère qu'elle sera opérationnelle parce que si elle est vraiment en contact avec les chefs d'établissement et qu'elle leur apporte des réponses, un soutien, et même si c'est symbolique de dire on est avec vous, je crois que pour les chefs d'établissement et les professeurs, c'est très important.
Alors Sacha, oui, on a vu en effet que c'était pour répondre à quelque chose d'assez concret, mais on a l'impression qu'il y a aussi un petit peu un effet d'annonce. Chaque gouvernement, finalement, depuis janvier 2015, on nous parle de laïcité par rapport à l'école. Une nouvelle fois, on se dit...
Bon, voilà. Je pense que le curseur que vous mettez, il est le bon. C'est-à-dire qu'il y a effectivement eu des lois qui permettaient de prévenir les signes ostentatoires dans les écoles. Par contre, on a laissé les professeurs bien seuls face aux questions des élèves qui disaient « je ne suis pas Charlie ». Et on les a dit « débrouillez-vous », finalement, l'éducation nationale, elle n'a pas de réponse pour ça. Donc si on peut un peu avoir une cellule qui écoute ces professeurs-là, qui leur donne des réponses ou qui leur donne des conseils qui soient juridiques, qui soient des conseils d'écoute ou des conseils de cellules de soutien, eh ben, moi, je trouve ça intéressant. Enfin, pour le coup, il y a ça. Vous avez cité aussi les rentrées. Je vous rappelle que des annonces, donc il y aura d'autres rentrées, il y aura des divisions de classe qui seront plus loin. Et puis par ailleurs, on va redonner des autonomies. Aux établissements pour que les professeurs soient valorisés dans leur travail. Et donc cette autonomie, elle doit s'accompagner aussi d'un soutien et cette cellule laïcité, comme beaucoup d'autres mesures, en fait partie.
Christophe Lévesque sur cellule laïcité.
Connerie, c'est une... Mais c'est n'importe quoi. Alors, pas de portable à l'école, il y a des tas de choses bien. Voilà. Les classes divisées en deux. Moi, je trouve qu'il y a des tas de choses bien qui ont été faites. J'ai été confronté à ça de très près, puisque ma compagne est allée bosser très souvent dans...
ce qu'on appelle les lycées en difficulté. D'abord, c'est pas toutes les lois existent, il y a qu'à les faire respecter. Donc une cellule de plus, c'est pas ça qui va changer le cancer. Ce qu'il faut faire, non pas taper sur...
Vous reconnaissez qu'il y a un cancer.
Taper sur... Alors oui, il y en a un. Ouais. C'est l'éducation. Je n'ai jamais entendu ce mot-là. D'ailleurs, j'ai jamais entendu ce mot-là chez Macron. Formation, oui, hein, parce qu'il va supprimer le chômage avec la formation. Mmh. Faites des formations. Par contre, de l'éducation, c'est ça qu'il faut faire dans l'école. Mais ça va prendre une génération.
Allez-y, Christophe.
Parce que j'ai vu, moi, les résultats que ça donnait. En faisant, par exemple, du théâtre à l'école, en abordant les thèmes de la parité, de l'égalité, de la laïcité. Il faut pas, les jeunes, il faut pas leur imposer des choses, leur dire c'est comme ça, si vous ne le faites pas, vous serez punis. Ils ne comprennent pas. Alors, voilà, il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Voilà, mais pour ça, il faut des pépettes, il faut un budget, il faut une volonté, et c'est de l'éducation. La répression, ça marche pas. Et alors, surtout avec les jeunes, ça sera de pire en pire. Ils le prendront mal, et ça va être une catastrophe.
Sacha Houillet. Non, mais pour ce qui concerne l'éducation, moi je viens de vous dire que vous avez vu qu'il y avait des budgets qui augmentaient, c'est des budgets d'éducation ou de l'enseignement supérieur, et en plus de ça, l'autonomie des établissements, elle est pas là uniquement pour faire beau. Ça, c'est pas une mesure d'annonce. C'est une mesure qui permet aux professeurs qui sont dans les classes, aux enseignants qui sont dans les classes des écoles primaires, vers laquelle on concentre tous les efforts, parce qu'on sait que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut faire ces plus gros efforts-là, et bien de pouvoir faire des expérimentations. Et effectivement, s'il y a besoin de
plus... Pour ça, il faut des pépettes. Classes, pour l'instant, ils ne les ont pas.
Ils en ont d'abord, parce que tous ceux qui ont fait les rythmes scolaires, il y a des compensations.
Mais je peux vous dire qu'il leur manque énormément.
Et moi, je vous ai dit qu'on a augmenté les budgets.
C'est vrai. Alors, Jannick Halimi, justement, comme le dit Christophe Lévesque, une loi de plus, une mesure de plus, un observatoire de plus.
C'est pas une mesure de rétorsion, enfin de...
De contrôle, de discipline.
C'est pour aider les professeurs, c'est ce que j'ai entendu. Aider les professeurs à sévir.
Mieux savoir comment réagir face à des formes de radicalisation religieuse. Et c'est effectivement un observatoire qui sera une cellule. Je répète,
au sein du ministère
très réduite avec des experts juridiques de la laïcité, des religions, etc. Mais qui viendront épauler les professeurs qui ont déjà... Il y a déjà la loi de 2010 à laquelle vous y allusion, créer les référents de laïcité qui sont dans chaque académie. Donc ce sont déjà des gestions qui permettent aux professeurs ou aux principaux de lycée, quand ils se trouvent face tout de même à des situations d'urgence que tout le monde peut connaître, s'il l'en prend tout simplement le temps pour voir ce qui se passe dans certains établissements, pas tous, il y a ces référents qui pourront demander conseil à cette cellule qui n'est pas là pour punir et qui est là pour conseiller dans des cas extrêmement compliqués. Alors après, on peut dire que c'est un truc de plus, que ça va être administratif, c'est une aide supplémentaire. Souvenez-vous, et vous le disiez, Madame Thorignan, lorsqu'il y avait eu la liberté laissée au chef d'établissement en cas de foulard. Les principaux étaient totalement perdus. Il a fallu une loi pour bien indiquer et donner la règle pour que ce ne soit plus flou. Voilà, les enseignants le demandent eux-mêmes.
D'accord, je suis d'accord avec vous sur le constat, mais c'est pas comme ça que ça marchera.
Mais ça ne marchera que comme ça.
C'est-à-dire que, par exemple, Christophe, quand ils posent une question, après Charlie, la question qui revenait souvent, c'était « Ah, mais pourquoi Dieudonné n'a pas le droit de parler ?» Voilà. Là, pour trouver la bonne réponse, croyez-moi, il fallait réfléchir pendant très longtemps.
Typiquement, la cellule peut être là pour apporter des éléments.
Le problème, c'est que cette cellule, peut-être va-t-elle réfléchir à ça, mais une fois qu'on aura donné une réponse aux enfants, est-ce que vous pensez que ça va suffire?
Mais à ce moment-là, on ne fait rien.
Il faut que la réponse vienne de Christophe.
Je suis d'accord. On continuera à en parler. Christophe Lévesque, non, mais s'il vous plaît. On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h51, c'est Stéphane Milhomme.
Jean-Yves Le Drian plaide à Ankara ce soir pour le retour de Lou Bureau. Le ministre français des Affaires étrangères demande une procédure rapide pour qu'il puisse rentrer en France et retrouver les siens. En attendant, le ministre souhaite pour ce photographe de meilleures conditions de détention et notamment que sa famille puisse lui rendre visite. Depuis 50 jours, Lou Bureau attend sa libération en Turquie, incarcéré fin juillet après un reportage aux côtés des Kurdes. Rétablir au plus vite l'école aux Antilles françaises après le passage d'Irma, notamment pour Saint-Martin. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, promet dès la semaine prochaine quelques heures par jour et dès la semaine prochaine, il souhaite qu'en priorité les élèves de terminale et ceux qui préparent le brevet des collèges soient concernés. Donald Trump promet un accord pour les Dreamers. Un accord politique est assez proche selon le président américain. Il concerne le sort de ces centaines de milliers de jeunes clandestins. Son prédécesseur, Barack Obama, les avait temporairement régularisés et Donald Trump veut mettre fin à ce volet de la politique d'immigration. François Hollande et Nicolas Sarkozy retournent à l'Élysée. Le président de la République accueillera demain après-midi ses deux prédécesseurs. Ils célébreront ensemble l'obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour Paris. Une première depuis la présidentielle. Et puis le sport au futur proche et même au présent en Ligue Europa de football. En ce moment, l'Olympique lyonnais mène 1-0 face à l'Apollon Limassol depuis Chypre. 21h05, l'Olympique de Marseille recevra les de Konyaspor et l'OGC Nice opposé en Belgique à Waregem.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il nous reste quelques minutes pour boucler la boucle, hein, puisque hier vous avez pu suivre en direct l'annonce officielle de Paris 2024 sur France Info. Alors une chose dommage aux Jeux Olympiques, c'est l'absence d'une compétition de théâtre, parce que hier, c'est vrai que quand Anne Hidalgo a découvert que sa ville allait organiser des Jeux, on a atteint un sommet d'interprétation inégalée. Hein. En plus, elle s'y attendait pas du tout, ça qui est bien. Elle a dû surmonter sa surprise. C'est un peu comme Marion Cotillard dans Batman, mais en joyeux. Je sais pas si vous voyez. Enfin, ça y est, voilà, Paris et Ville Olympique, une première depuis 1924. Et maintenant, eh bien, il y a des interrogations quant au budget, 6 milliards à ne pas dépasser, à la préparation, à l'intérêt. Et il existe quelques opposants médiatiques. Valérie Thorragnon, vous avez l'impression que ces Jeux font l'unanimité?
J'ai l'impression que là, on est dans l'euphorie obligatoire, que si tout d'un coup, là, en ce moment, là, dans les jours que nous sommes en train de traverser, si on a l'air de faire la moue ou de dire oui, enfin bon, quand même, c'est limite si on passe pas pour des antipatriotes, quoi. On est limite des traîtres à la nation. Donc là, je pense qu'il faut qu'on se calme un peu parce qu'il y a des vraies questions autour de ces JO. D'abord, c'est évident que oui, ça pose aussi des questions budgétairement. C'est beaucoup d'investissements.
6 milliards. Pour l'instant, c'est prévu 6 milliards.
Voilà, mais bon. Il y a une partie des investissements qui sont des fonds publics. Qu'aujourd'hui, on peine à chercher de l'argent partout. Ben, est-ce que cet argent est le mieux utilisé au monde? C'est des vraies questions qu'il faut pas. Je pense que là, dans l'euphorie, on les évite, mais qu'elles vont vite ressurgir. Et puis, on est aussi. On peut pas nier que peut-être que l'euphorie, on en a aussi un peu besoin, que les effets intangibles, même s'il n'y a pas des retombées économiques dingues, mais le fait que, à un moment donné, ça galvanise quelque chose, d'un esprit, d'un élan, ça fait très En Marche, en fait, tout ça. Ça fit bien avec En Marche.
Justement, Sacha Houillon, on avait un de vos confrères, des députés de Seine-Saint-Denis, lui était plutôt communiste hier, et il nous parlait, alors on ne sait pas du tout, il va y avoir une loi d'ailleurs olympique, il faut voter une loi, pour ça je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, sur Paris 2024, vous, aujourd'hui, vous le vivez comment, d'ailleurs en tant que parlementaire, aussi en tant que Français, pour vous c'est une chose, c'est quelque chose, bon, voilà.
Moi je me réjouis parce que moi je ne suis pas de ceux qui pensent que quand on gagne, il faut s'excuser, et quand on perd, il faut être grincheux. Donc on gagne, et tant mieux, et il faut s'en féliciter. En revanche, d'ailleurs, j'imagine que si on était prêt en 2020, on le sera aussi pour 2024. Et puis pour ce qui concerne la Seine-Saint-Denis, je crois qu'il y a eu des aménagements assez forts qui ont été faits, par exemple pour l'obtention de la Coupe du Monde en 98, avec des choses qui avaient été négociées autour du Stade de France et des liaisons qui permettent aujourd'hui d'avoir des trajets de RER. Je pense qu'il y a des choses à améliorer et qu'on en a d'ailleurs anticiper certains aspects parce que on a la métropole du Grand Paris avec le plan d'aménagement sur les transports qui doivent justement être mis à profit dans le cadre des Jeux Olympiques.
Voilà, c'est dommage juste d'attendre les Jeux Olympiques pour faire ce Grand Paris enfin.
Ah, mais ça a déjà été prévu au préalable.
Je sais, juste Jeanne Calimi.
C'est un accélérateur.
Très rapidement, parce que Anne Hidalgo, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, trois femmes et hommes politiques, chacun peut en tirer un bénéfice politique.
Oui, alors si c'est la question que vous posez, oui. Derrière cette euphorie qui est quand même le fruit d'un travail, il ne faut pas le sous-estimer, de 5 années hein, de tous les organisateurs en politique, femmes politique sportive, etc. Se profile bien évidemment le bras de fer, voire plus de la bataille de Paris d'abord, puis de la présidence, notamment entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo, notamment, et puis évidemment... Valérie Pécresse qui jouera aussi sa propre musique. Mais là, ce qui se joue surtout, c'est le bras de fer entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo.
Allez, je suis désolé, Christophe Alévèque, on n'a plus le temps. Je suis désolé de ne plus vous entendre. Vous êtes ce soir censuré.
Vous dites qu'il va falloir finale de 100 mètres avec Macron,
c'est ça, ouais, voilà,
Pécresse
c'est ça.
Et Hidalgo. Voilà.
Et bien, c'est une bonne nouvelle. Moi qui râle sans arrêt.
Ça sera formidable. En tout cas, merci beaucoup, Christophe Alévèque, d'être passé ce soir aux informés de France Info. Je rappelle votre nouveau spectacle, c'est Christophe Alévèque revient quand même, hein, et donc c'est à partir de dimanche au théâtre du Rond-Point.
Oh, c'est une revue de presse, allez,
Champs-Élysées. Merci Sacha Houillet d'être passé ce soir. Jeannick Halimi, la une du Parisien.
Oui, la une
en
du
France.
Parisien, c'est un rapport que nous dévoilons demain qui va intéresser les enfants, les enseignants, les parents sur le sommeil des enfants.
Et la revue du Monde, Valérie Thorragnon.
Un numéro international, alors politique internationale. Est-ce que Poutine est notre nouvel ami?
À retrouver, donc bien sûr. Et nous, on retrouve Jean-François Aquili. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Tout est politique au programme ce soir.
Il y a un titre, Emmanuel Macron en marche forcée, point d'interrogation. Nous sommes avec Hugues Ranson, député de La République En Marche de Paris. Émile Leclerc, qui est directeur d'études chez Odoxa. Nous allons dévoiler ce soir notre sondage après les manifs de mardi. Okay. Et Anne-Sophie Beauvais, la directrice générale de Sciences Po Alumni. Et Yael Gauze.
Tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.